tous, merci d'écouter Radio J. Il est 16h et c'est l'heure d'un nouveau journal. Au 209e jour de guerre, une délégation du Hamas doit se rendre en Égypte pour avancer sur les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza. C'est ce qu'a annoncé le groupe terroriste dans un communiqué publié cet après-midi. Néanmoins, aucune date n'a été avancée pour ce déplacement. Ce matin, un haut responsable du bureau politique du Hamas affirmait qu'il allait rejeter la proposition d'accord du fait qu'elle n'inclurait pas la fin de la guerre et le retrait total de Tsahal de la bande de Gaza. C'est dans ce contexte que le cabinet de guerre israélien a prévu de se réunir, Pascal Zunshein.
Déjà annulée à plusieurs reprises, la réunion du cabinet de guerre a donc été annoncée pour aujourd'hui en fin d'après-midi. Ensuite, Benjamin Netanyahou l'élargira à l'ensemble des ministres du cabinet de sécurité. Des reports dus évidemment à l'attente de la réponse du Hamas sur la proposition de trêve et d'accord sur la libération des otages présentée la semaine dernière par l'Égypte. À la mi-journée, des sources égyptiennes évoquaient une avancée positive dans les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas, même si rien de précis ne filtre sur les intentions réelles de l'organisation terroriste. Le cadre général dont Israël a accepté le principe prévoit une période globale de 4 mois et demi, découpée en 3 phases, avec une première trêve de 40 jours en échange de la libération de 33 otages, jusqu'à la restitution de l'intégralité des otages contre la libération de près d'un millier de terroristes, le retrait progressif de Tsahal de la bande de Gaza et le retour de la population palestinienne déplacée vers le nord du territoire. Mais le Hamas insiste toujours pour obtenir des garanties d'Israël sur la fin de la guerre et de la réponse du Hamas devrait aussi dépendre la décision du cabinet israélien sur le lancement ou le report de l'opération de Tsahal à Rafah, dernière partie de l'offensive contre le Hamas dans la bande de Gaza.
Notre correspondante en Israël, Pascal Zunshein. Sur le terrain, un terroriste a été repéré dans le sud du Liban. Terroriste qui se trouvait dans une structure militaire du Hezbollah dans la région de Markaba cet après-midi. Il a été éliminé par des avions de combat israéliens, des avions qui ont bombardé dans la nuit des infrastructures terroristes dans la région de Sheba, également dans le sud du Liban. Du côté de la Judée, Samarie, une cellule terroriste du djihad islamique qui prévoyait de commettre un attentat à la bombe contre les forces de Tsahal a été démantelée. Dans cette affaire, le Shin Bet a précisé que 3 militants du village de Yabad, dans le nord de la région, ont été arrêtés en début d'année. Lors de leur arrestation, des charges explosives prêtes à être utilisées ont été saisies. Aux États-Unis, la définition de l'antisémitisme a été élargie dans un premier vote du Congrès. Elle va désormais reprendre la définition de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, l'IHRA. Une mesure proposée en réaction aux manifestations pro-palestiniennes qui secouent les campus du pays. Le président israélien Yitzhak Herzog a d'ailleurs dénoncé cet après-midi la terrifiante résurgence de l'antisémitisme dans le monde, notamment en Amérique. Pour entrer en vigueur, cette mesure doit encore être adoptée au Sénat où son avenir reste incertain, puis promulgué par le président Joe Biden. Sciences Po Paris a organisé ce matin un débat interne sur la guerre à Gaza. C'était une demande des organisations étudiantes et en particulier des bloqueurs de vendredi dernier. Parmi les nombreux points évoqués, la question des relations entre Sciences Po Paris et les universités israéliennes. Écoutez l'administrateur provisoire de l'établissement, Jean Basser, sur les conclusions de ce débat.
J'ai refusé très clairement la création d'un groupe de travail qui était proposé par certains étudiants pour investiguer nos relations avec les universités israéliennes et même des entreprises qui sont des partenaires financiers. Là, j'ai clairement indiqué, ne serait-ce que pour respecter la gouvernance actuelle de Sciences Po qui dispose sur ces sujets-là de règles internes assez claires, j'ai refusé la création de ce groupe de travail et je sais d'ores et déjà que ça va susciter des réactions chez certains.
Administrateur provisoire de Sciences Po Paris qui annonce par ailleurs le lancement de travaux pour préparer à la rentrée un plan pour mieux poser les règles du débat de demain et mieux vivre ensemble au sein de Sciences Po. Fin de citation. Enfin, un peu plus d'un mois avant les élections européennes, les têtes de liste de Renaissance et du Rassemblement National vont s'affronter dans un débat télévisé. Valérie Hayet et Jordan Bardella se feront face à partir de 21h sur BFM TV. Quand le Rassemblement National est crédité de 32% des intentions de vote à 5 semaines du scrutin, selon un sondage Ipsos, Valérie Hayet fait elle office de challenger avec seulement 17% des intentions de vote. Radio J, le système.
9, Ilana Ferradian.
Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
Vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière.
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicule médicalisé, matériel médical, transfusion sanguine. Grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA-France.org.
MDA-France.org.
Radio J.
Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h30. Cyril Sarah Cohen.
Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J. Merci pour votre fidélité. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission avec mon invité aujourd'hui, le professeur Laurent Carilla pour son livre Docteur Addict ou pas aux éditions HarperCollins. Et tout de suite, on découvre ensemble le coup de cœur sur Radio J.
Radio J.
15h-16h30, Cyril Sarah Cohen.
Bonjour Anaïde.
Bonjour Cyrielle.
Merci beaucoup d'être notre invitée aujourd'hui. Vous êtes auteur-interprète. On va découvrir votre titre, Partir, alias, si je puis dire, tourbillon, issu de ce nouvel EP qui s'intitule Tourbillon, comme un tourbillon d'émotions, de révolte, de chagrin, de pensée aussi. On écoute et on revient.
Partir pour fuir, se séparer d'une ville en feu qu'il faut quitter. Un peuple avance sans frontières, la guerre épuise les sœurs, les frères, toujours en quête et sans repos, l'exilé fuit sa vie au dos, sa seule raison est sa survie, le bruit des bombes pour sa patrie.
Découvrir ce titre Partir qui fait partie de votre album Tourbillon. De quoi parlez-vous dans ce titre et dans cet album?
Alors c'est vrai que cet album, cette EP en tout cas, fait écho et résonne en moi, car cette année 2023 a été une année très difficile en tant que Française d'origine arménienne. Comme on le sait, on a l'Arménie et l'Artsakh ont vécu une nouvelle fois une période très douloureuse et difficile et qui nous marquera à vie. Moi, c'est vrai que je ne suis plus la même depuis ce 19 septembre au soir. Et l'état d'esprit dans lequel nous étions tous, c'est que ce passage de l'histoire qui a été finalement mis à la vue de tous sans que personne n'en parle, où 120 000 Arméniens ont dû vivre un blocus de 9 mois, puis l'exil à nouveau, comme une sorte de nouveau génocide où on leur a dit, bah voilà, partez de chez vous en 24 heures, parce que sinon on vous exterminera, ou de force. Et depuis, bah, le peuple arménien, le peuple d'Artsakh, les Arméniens d'Artsakh essaient de se reconstruire. Et j'ai voulu écrire ce texte, Partir, Tourbillon, comme un cri de révolte et surtout un cri d'alerte pour que l'on puisse essayer à nouveau de vivre en paix, nous reconstruire. Et c'est là le travail commence en 2024.
C'est un message très fort que vous donnez dans votre musique. Et tout court, Anaïde, depuis voilà, vous êtes depuis jeune, vous avez donc une double culture. Vous êtes française, mais d'origine arménienne de par vos parents. Vos racines sont très importantes. D'ailleurs, pour ceux dont le prénom résonne un petit peu, vous avez participé à la saison 10 de The Voice. Vous avez eu les 4 fauteuils retournés. Vous y aviez interprété un chant en arménien et en français qui s'intitule Ingala. Et j'ai envie qu'on écoute un petit bout ensemble. Ce titre Ingala qui, il me semble, veut dire « Je suis une tombe », c'est ça ?
Alors, en fait, « Je suis une tombe », c'est le titre en français,
oui.
Mais le Ingala n'est pas la traduction littérale de « Je suis une tombe ». Parce que c'est Vincent Baghian qui a écrit ce texte en français, « Je suis une tombe ». Et il s'est inspiré de la version traditionnelle d'un chant tout autre arménien, Ingala. C'est les pleurs d'un berger au-dessus de sa montagne, où il s'aperçoit que cette montagne ne lui appartient plus. Et Vincent Baghian en a traduit « Je suis une tombe ». Mais c'est vrai que Ingala, ce sont les pleurs de ce berger. Et ça a été une expérience fabuleuse de participer à l'émission The Voice avec cette chanson. En plus, nous étions en pleine période de guerre. Et nous, il était important pour les Arméniens et pour ceux qui ne connaissent pas ce petit pays et ce qu'il est en train de vivre, de faire ce passage à The Voice qui a été très bien accueilli. Et je suis très reconnaissante des retours qu'on a pu avoir. Voilà, c'était très très beau.
Aujourd'hui, vous vivez de votre musique. En tout cas, vous faites des concerts. On va en parler dans un instant. Vous êtes très suivi. On a écouté ce titre Ingala qui fait partie de votre EP, il me semble, Tourbillon. Vous dites que les mots prennent leur importance dans votre musique, que vous souhaitez véhiculer, et on l'a bien compris, dans vos compositions, des messages d'union, d'amour, de partage, mais pas que, en dénonçant aussi la comédie humaine et la marginalisation des êtres oubliés. Et j'ai envie qu'on écoute à présent, Me voici.
Merci.
J'ai mis des sons feutrés sur des mots si précieux. J'ai mis crier silence pour appeler les dieux. J'ai accordé mes joies et mes peines du moment. J'ai mis un peu de rythme pour sublimer l'instant. J'ai mis pour vous ce soir l'un des plus beaux atours. Attirer l'amour, j'aime parler de vous. Vous êtes mon doux parfum. J'ai mis un peu du monde
on découvre ce titre, Me voici d'Anaïde. Vous dites aussi depuis quelques temps que vous avez mis en place des compositions et des reprises de chants, mais en arménien français bilingue, notamment, alors là c'est cher à mon cœur, hein, Dalida, donc je suis obligée de diffuser un petit extrait. On va même mettre un petit medley avec Barbara, Kenji ou encore Claudio Capéo. On écoute sur Radio J dans un instant.
C'est l'histoire d'un amour, ma complainte. Un roman comme tant d'autres, au galorelline elle connaît, gens d'ici ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler, c'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Mi partir d'al gangnade, ou jérievna kartzede, vers le jour qui va venir. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, maïdigisir ou natchkere, enlevez-moi même tout le reste. Pas vachnera qu'un couche tserkere, elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Maïden sirins het gedani, qu'un kes mich havadarim gelini. Si j'avais su, en partant ce soir-là, y était.
Anaïde, on est en train de se dire que c'est merveilleux, qu'on écoute et qu'on trouve ça extrêmement joli. Vous dites que l'espace artistique mérite d'être étoffé par des artistes poètes. C'est ce que vous avez envie d'insuffler.
Oui. Tout à fait, c'est vrai que j'aime mettre l'accent sur les mots et sur l'histoire d'un artiste. Le parolier, le rôle du parolier est un rôle tellement parfois ingrat qu'on oublie de le citer. Et moi j'ai envie de mettre en avant justement ce travail d'écriture qui peut prendre parfois des années, car ça, il varie en fonction de l'âme et des émotions de la personne. Et j'ai été bercée par les textes d'Edith Piaf, de Barbara, de Mouloudji, de Charles Aznavour. Et c'est vrai que parfois il me manque encore des artistes dans notre génération vers lesquels me tourner pour me dire je me sens représentée. Donc je puise dans ce que mes aïeux m'ont transmis et j'ai envie, même si ça prendra un peu plus de temps, de mettre en avant ce travail d'écriture.
Et c'est aussi, j'ai envie de dire, l'occasion de prendre une place qui n'existe plus forcément, mais en tout cas de pouvoir se nicher là-dedans. Anaïde, aujourd'hui, vous êtes devenue ambassadrice du public par la télévision arménienne, je crois savoir.
Oui, tout à fait.
Avec 14 autres ambassadeurs. La télé s'appelle H1, c'est ça?
Oui, c'est l'équivalent du TF1 arménien.
Comment ça s'est passé, pour vous?
Alors, c'est suite à l'émission de The Voice, qui a été très très bien accueillie en Arménie, encore plus qu'en France. Déjà qu'en France, ça a eu un très très bon retour. En Arménie, ils ont été très émus et touchés de voir que la France puisse mettre en avant la langue arménienne. Et j'ai pu faire beaucoup de télévision là-bas en Arménie et des concerts. Et c'est vrai que pour eux, c'est important d'avoir des porte-paroles, on va dire, en dehors de nos frontières. Et j'ai été, ça n'a pas qu'un rôle honorifique, on va dire. C'est vrai que c'est un beau travail. Et finalement, c'est ce qui m'a toujours animée depuis ma plus tendre enfance. C'est que je suis française et très fière d'être née en France. Mais il ne faut pas que je perde cette richesse que d'être arménienne et ce petit plus. Et en tout cas, voilà, la télévision m'a fait confiance. Et depuis, je donne des concerts avec la télévision à mes côtés et avec des supports que la télévision puisse nous offrir pour les transmettre en France.
Et pour les prochains concerts, ce sera le 9 mars à l'église Notre-Dame des Marais à Villefranche, du 13 mars au 3 avril en Arménie, pour une campagne humanitaire avec aussi des interviews. Le 23 et 24 mai, un concert à Issy-les-Moulineaux. Le 25 mai, je crois aussi à Bordeaux. Le 1er juin à Bruxelles, je dis tout. Hein. Et le 8 juin à Cahors, concert en Bretagne, Australie et Montréal aussi prévu. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Parce que je crois qu'il y a des collaborations aussi qui sont en cours.
Eh ben, j'espère que cette nouvelle année 2024, nous allons pouvoir apporter cette dose de lumière dont on a tous besoin. Les nouvelles collaborations, c'est un nouveau concert, un nouveau spectacle avec un ensemble de danse, l'ensemble de ballet Egaïan de Lyon. Et une tournée de France en Arménie et en Arménie avec eux est prévue. Et je souhaite que vraiment à tous ces peuples oubliés, on va dire une reconstruction et que l'on puisse faire entendre leur voix et être à leur côté.
Merci beaucoup Anaïde d'avoir été avec nous en direct sur l'antenne de Radio J. Pour vous découvrir, on vient sur anaïdeb.fr, sur Instagram anaïdebsong, sur YouTube et puis sur Facebook également anaïde.b. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur du jour sur Radio J.
Merci à vous Cyrielle. Merci.
Merci, au plaisir et continuez évidemment.
Radio J.
Radio J.
Le portrait psychologique.
Comme toujours, docteur Laurent Carilla, on ne vous oublie pas cette petite pause.
J'ai adoré cette émission.
Musicale. Voilà, le temps de découvrir un artiste et puis de revenir à vous parce qu'on ne vous oublie pas. Ces minutes passées ensemble ont été notées, annotées.
Ah.
Et nous allons les débriefer.
Ah, débriefons là.
Avec Sandy Boulanger. Bonjour Sandy.
Bonjour Cyrielle. Bonjour Laurent Carilla.
Bonjour Sandy.
Alors oui, je vous ai entendu, écouté avec beaucoup d'attention parce que pour moi, l'exercice est d'oublier tout ce que j'entends et je sais de vous et d'uniquement entendre ce que vous nous avez partagé aujourd'hui. Alors, on commence les trois mots propres et chers à Cyrielle de l'émission pour vous caractériser aujourd'hui, parce que demain est un autre jour. Vous nous avez dit être empathique, généreux et angoissé. Alors, on va voir ensemble comment est-ce qu'on vous a retrouvé tout au long de cette émission dans ces trois mots. Et bien plus encore. On commence toujours par l'enfance, hein. On sait bien que c'est le socle hein, aussi. Ouais. Et vous, ce que vous nous avez partagé, c'était que pour vos parents, ce qui avait été important, c'était que faire des études, ça permettait de sécuriser la vie. Et qu'ensuite, on pouvait se permettre de vivre ses passions. Donc on sent ce sentiment de structure, de « il y a du sérieux » et après on peut déconner. Alors vous nous dites aussi avoir toujours fonctionné avec des modèles.
Ouais.
Quand on a eu le flashback, on se dit que dis donc, ils sont sacrément riches et variés, vos modèles. Mais c'est surtout aussi dans vos études en médecine que ça a été vraiment notoire. C'est pour ça que vous êtes allé en psychiatrie, addictologie, parce que vous tombez amoureux du service, mais surtout des gens qui y sont, qui sont présents. Et d'ailleurs, vous dites, dans des extrêmes de aimer et détester, vous détestez la croyance justement du manque de volonté qui est collée aux addictions. Bah, ça sonne un peu d'ailleurs comme vol et honte, hein. C'est pas beau, c'est moche et ça n'a rien à voir avec le sujet. Votre côté sexe, rock'n'roll, vous avez dit, vous amène à aimer l'addiction en termes de plaisir positif. Bah, comme la musique l'est pour vous, par exemple. C'est alors voir les maladies chroniques, bah, que sont les addictions, avec humanisme, équité et puis surtout horizontalité dans la relation à l'autre. Vous, le soignant, empathique, généreux et angoissé. Alors, vous avez beaucoup d'humour. Vous avez dit tout à l'heure à Cyrielle, sur un ton toujours très calme et posé et sérieux, « J'aime bien quand vous m'appelez docteur. » Bah oui, on voit bien que vous êtes sérieusement drôle aussi. Je pense que ça aide à pouvoir générer aussi bah, beaucoup d'empathie, de générosité et puis de canaliser l'angoisse.
C'est ça.
Alors, du coup, votre livre, on peut en fait, en fonction des chapitres, choisir ce qu'on veut et puis vous avez des questions-réponses. Ça, je crois que c'est votre générosité aussi. Vous avez besoin qu'on puisse faire en toute liberté ce qu'on veut, comme on veut, que ce soit utile, que ça pousse à la réflexion, que ce soit aidant. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'attachement à ce côté libre aussi chez vous que vous partagez avec beaucoup d'empathie. Alors, comprendre l'autre en se mettant à sa place, c'est ce que vous nous avez dit de vous et de vouloir. Ben voilà, de chaque individu unique et magnifique, j'aurais pu entendre sans que vous l'ayez prononcé, on sent que vous avez ce goût pour l'individu, la personne. Eh bien, c'est un peu ce que disent les Anglais quand on dit d'être dans les chaussures de l'autre. « If I were in your shoes », d'ailleurs, c'est le seul moment où on peut dire « if I were ». C'est une expression qui est précieuse, effectivement, parce que ça permet de se dire, bah, en étant dans les chaussures de l'autre, on peut peut-être comprendre sa verticalité et justement quand il chute souvent. Alors, il y a l'image qu'on voit de vous, bien sûr, Laurent, hein, le style métal dans vos habits, mais pas que, dans ce discours posé, charismatique du professeur. Et puis, on entend surtout le poète.
C'est gentil, ça.
Le sensible en vous. Bah, l'homme pudique aussi, quand même. Je pense que je vous embarrasse un poil, quand même, là. Mais finalement, vous avez beaucoup de captations sensorielles, je pense, avec toute cette diversité qui vous anime. Et puis, vous nous invitez tous à avoir du plaisir, celui qui est pur, qui ne procure aucune souffrance. Et ça, c'est votre addiction positive. C'est de ça dont vous parlez. C'est vraiment de ça qu'on a pu bénéficier aujourd'hui tout au long de cette interview. Alors, on vous dit oui, docteur, professeur, Laurent, bien sûr qu'on veut apprendre, nous aussi, à pouvoir gérer comme ça ces équilibres instables. On a entendu qu'ils étaient jamais acquis. Voilà, ils sont pas gravés dans le marbre. Et puis, bah, d'un côté comme de l'autre, hein, de la force. L'histoire, c'est toujours d'avoir du positif et pas de souffrance, parce que ça, on a bien compris que vous aimiez pas ça du tout et que finalement, ça n'avait aucun plaisir de souffrir.
C'est ça.
Ouais.
Exactement.
Je me suis dit aussi que, à travers le gore que vous aimez, nous avez-vous dit dans la littérature, bah, ce serait comme un exutoire. Un amphithéâtre de nos gladiateurs internes, vos combattants à vous aussi, mais dans un cadre contenant, un peu comme votre livre, avec la musique aussi. Et puis l'art finalement, donc on retrouve votre côté poétique. Donc finalement, ça permet d'orchestrer tout ça en sécurité de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc ces fameuses angoisses qu'on peut mettre parfois au pluriel, malheureusement. Et alors on sort en paix, victorieux, comme un gladiateur, au saut du lit chaque matin. Bah oui, changez rien, Laurent, bien sûr, vous avez raison. Vous êtes passionné, passionnant, vous êtes vivant, vibrant, rêveur, ayant positivement et cruellement les pieds sur terre. Et puis vous êtes sensible et puissant, alors. Bah, merci, Laurent, de
merci
faire partie de l'humanité avec vous. Et je terminerai juste sur cette chanson d'Enrico que vous avez aimée, que nous adorons. Donnez, donnez, mais surtout donnez-moi, parce qu'il y a la réciprocité.
Ouais, c'est vrai. Merci pour ces mots.
Merci mille fois, Sandy Boulanger, Sandy, notre thérapeute que l'on retrouve tous les mercredis sur Radio G. Il y a une expo photo de votre travail, Sandy. Je crois que c'est du 1er au 29 février à la pharmacie Eiffel, au 13 au 17 rue du Commerce dans le 15e arrondissement de Paris. C'est gratuit.
Oui.
Et on peut venir pour voir votre beau travail qui s'intitule Le lien au cœur du soin.
Oui, c'est vrai. Merci.
On viendra regarder
bravo
ça.
Sandy, merci.
Merci.
Bien évidemment.
Radio G.
15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen.
C'est la fin de cette émission avec vous, docteur Laurent Carilla. Eh ben, ça aurait été un grand plaisir, mais là, faut travailler pour demain. Vous êtes venu nous voir pour votre livre, Docteur Addict ou pas. Vos conseils pour continuer à se faire plaisir sans tomber dans les addictions aux éditions HarperCollins. Merci beaucoup pour cet échange.
Merci Cyrielle, merci à toute l'équipe.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à l'artiste Anaïd B d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous demain dès 15h avec mon invité Samy Bouajila. À demain, belle journée à tous sur Radio J.
Je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant.
Bonjour, c'est Lise Gutmann.
Le 10-11, Lise Gutmann.
Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, Divertissement, Communauté.
Radio J.
Vous écoutez
Radio J.
Radio J.
Radio J. Shoot.
ברא שוב בחולי ובעוני לבקש אחת כמוני לא אחד אני בוחרת מעכשיו היה מופקרת לכולם
Et on prend la direction de Jérusalem ce matin dans le direct d'Israël pour rejoindre David Mansour qui est guide touristique. Vous pouvez le contacter sur tioul-tov.org. Bonjour David.
Bonjour Léa, bonjour les auditeurs.
Merci d'être avec nous. Nous vous parlons de temps en temps sur l'antenne de Radio J pour que vous nous donniez une photographie de la société israélienne, une société que vous observez. Vous observez bien évidemment, et c'est incontournable, la politique et ce qui se passe dans le pays. Et depuis presque 7 mois, c'est une situation hors norme, j'allais dire extrêmement difficile. Nous venons de fêter, même si le terme est un peu galvaudé dans nos esprits, de fêter Pessah en Israël. Alors, quel bilan tirez-vous, David, de cette période de Pessah en Israël?
On va dire que déjà les tirs, les roquettes, tout ça, ça s'est calmé. Donc, en tout cas, sur le centre du pays, c'était assez calme. Il y a toujours dans le nord, les gens sont pas encore rentrés chez eux, donc pour eux ça a dû être un Pessah à l'hôtel depuis 6 mois, en dehors de leur logement, en dehors de la famille. Pour le reste du pays, on va dire que c'était très calme à Pessah. Il y avait une analyse aussi sur le site de Ynet à la fin de Pessah. Je crois qu'ils ont dit presque un demi-million d'Israéliens se sont promenés malgré la situation, vous savez. Ils disent je crois 450 000 personnes. Donc c'est-à-dire que les gens ont eu des fêtes assez calmes et il y avait des gens dans les rues, c'était joyeux. Nous-mêmes avec notre organisme Tioul Tov, on a eu des visites avec des Israéliens francophones qui habitent ici, sur Anana, Natania, Ashdod, et ceux qui étaient de passage pour visiter leur famille, et aussi des non-juifs aussi qui sont venus. C'était aussi proche de la Pâque chrétienne et avec les vacances scolaires aussi en France, dans les différentes régions. Donc il y a eu une ambiance qui faisait peut-être croire que les choses se tassent un peu et que les gens ont vécu des fêtes presque normales.
Alors on va revenir bien sûr sur la situation et sur les Israéliens, mais vous avez parlé d'un élément dont je voulais sur lequel je voulais vous interroger. Vous êtes guide, cher David, et ce ne sont pas que des Juifs que vous guidez en Israël. Et votre métier vous oblige à avoir une connaissance. Je parlais d'observation tout à l'heure, mais il faut avoir une connaissance pointue de l'histoire, il faut avoir une connaissance pointue quand même de la politique du pays, et d'autant plus pointue que vous pouvez vous adresser à des personnes non juives qui viennent visiter Israël et qui ont envie de comprendre. Alors ces personnes-là, vous dites, dans cette période que nous vivons, vous avez eu des visites. Est-ce que vous en avez eu beaucoup? Ça c'est sur la quantité. Et quelles ont été les réactions ou les questions qu'elles vous ont posées?
Alors on va dire comme ça, déjà pour les auditeurs qui savent pas, le guide touristique passe une formation sur 3 ans par le biais du ministère du tourisme israélien. Et donc c'est vrai que pendant ces 3 ans-là, on touche aussi bien à la géologie, à la géopolitique, au site qui concerne toutes les religions, juives, chrétiennes, musulmanes. Et donc de ce fait-là, on est censé pouvoir guider tout le monde après. Après bien sûr avec l'expérience, avec le temps, ça s'améliore. Moi ça fait 17 ans que je suis sur le terrain. Et c'est vrai que sur les 4 millions de touristes qui sont venus, par exemple, en 2019, qui était le chiffre le plus haut qu'Israël a eu dans le tourisme, il y avait seulement 35% qui étaient juifs, tout le reste 70%. Après, les auditeurs sont peut-être plus réveillés que moi pour le calcul sur 4 millions de personnes, oui. Mais ça fait beaucoup de non-juifs. Oui. Donc, c'est des gens qui viennent, beaucoup d'espagnolophones aussi, qui viennent d'Argentine, de tous ces pays-là, qui sont aussi très chrétiens, le Brésil, tout ça autour. Mm-hmm. Et après, c'est des gens d'Europe, Belgique, France, Suisse, et aussi Canada, on a, ou les États-Unis en troisième position, les anglophones. Tout ça, ça fait qu'il y a plus de non-juifs qui viennent en Israël visiter le pays que de juifs, puisqu'ils sont un petit peu plus nombreux que nous sur Terre. Donc ça, c'est à dire. Et là, la population qui est venue, c'était des gens qui attendaient de venir avant la guerre, qui avaient déjà prévu de venir, chacun avec leur histoire. Une famille très sympathique, c'était les 70 ans de la mamie qui était non-juive, chrétienne, et qui voulait être vers la période de Pâques, pour cette fois-ci la Pâques chrétienne, à Jérusalem pour ressentir aussi, alors qu'elle pensait venir vers le mois de novembre pour la Toussaint, mais il y a la guerre qui avait éclaté, vous rappelez. Donc c'était beaucoup de dossiers comme ça qui devaient revenir, et des gens qui s'étaient fait à l'idée de venir, et deux, trois qui s'étaient surprenants de dire, j'ai vu que ça s'est calmé, que les vols ont repris petit à petit, on aimerait venir. C'était pas... la folie, c'était pas le Chol HaMoed qu'on connaît en général en temps normal avec notre organisme, des dizaines de visites par jour et de guides mobilisés pour ça avec mes collègues. Là, c'était quelque chose de très light, de tout ce monde. On a donné de l'attention à tout le monde. Tout le monde est revenu très content. Et c'était bien comme ça. Mais c'est prometteur par rapport à rien du tout.
Bien sûr.
Il y a encore 3-4 mois par rapport à... Voilà.
Bien sûr. Mais quels sont leurs propos? Je veux dire, quelles sont leurs positions? Quelles sont leurs visions d'Israël à ces personnes-là?
Les mêmes que si j'avais guidé une famille juive, le même dégoût. Ceux qui viennent, c'est pas quelqu'un qui est dans une manifestation, excusez-moi, je vois un peu ce qui se passe
aussi
à 4000 km, j'ai grandi en France, jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est pas des gens qui sont à Sciences Po, c'est plus une référence d'être là-bas, excusez-moi. Ça a été peut-être. Voilà, c'est des gens que dans l'échiquier politique aussi en France qui soutiennent Israël, comme tous ces gens qu'on voit à votre radio aussi. Je vois tous les jours passer des personnes non juives qui soutiennent sur CNews partout. On le voit, c'est ces mêmes profils de personnes qui viennent et qui sentent qu'ils ont un intérêt à nous soutenir, qui comprennent que bah, Israël, c'est un peu le dernier bataillon de la région pour la liberté d'expression, pour la seule démocratie. Et ça, ils viennent avec ces mêmes valeurs de vouloir soutenir Israël d'une certaine manière et de montrer aussi leur engagement, puisqu'ils savent que ce qu'ils vivent en France, c'est aussi quelque chose de très dangereux, avec des gens qui soutiennent le Hamas, qui soutiennent les faits du 7 octobre, de la barbarie qu'ils ont fait. Donc c'est
il y a une conscience.
Je ne sais même pas que c'est des non-juifs.
Tout à fait.
Ils me disent, David, on vous soutient. Et on est là parce qu'on pense que ce qui vous arrivait, ça peut nous arriver aussi à nous demain, et on voit à quel point le monde est sournois, à l'ONU, partout, la pression qu'on fait sur Israël. Donc ils viennent aussi pour ça, ils viennent pour découvrir le pays, mais je pense pas qu'ils auraient eu le même déclic de dire on va aller en Ukraine soutenir, parce que, vous voyez ce que je veux dire, là c'est quelque chose de spécial, c'est la Terre Sainte. On a des racines communes, et je pense qu'ils viennent vraiment pour fermer
démarche,
la boucle,
voilà. Ils pensent qu'on... Oui. C'est une démarche quand même. Aujourd'hui, c'est plus une démarche de soutien. Vous dites, c'est ce que vous dites, hein, c'est ce que j'entends. Une démarche presque de soutien à Israël que, ou alors à part égale de tourisme. David, être guide touristique en Israël, c'est tout de même, j'allais dire, différent. Hein. Le pays est en guerre depuis sa naissance, et votre rôle est presque crucial dans l'image qui souffre, l'image d'Israël, l'image qui souffre tellement aujourd'hui. Est-ce que vous en avez conscience lorsque vous guidez ces gens et lorsque vous apportez vos observations, votre analyse de la situation?
Ah oui, je pense que comme à la différence, un médecin, je pense quand il se lève, il pense qu'il va dans tous les cas guérir des gens et sauver, ou faire un monde meilleur avec des gens qui sont mieux. Je pense que quand on choisit le travail de guide, en tout cas pour moi c'était comme ça il y a une vingtaine d'années quand j'ai commencé cette démarche en Israël, c'était avant tout pour de la hasbara, de l'explication, faire en sorte qu'il y ait une image plus belle d'Israël et plus juste. On a
de la
tellement
pédagogie,
d'erreurs
oui.
ici à réparer.
Oui.
On va dire que si on devait parler, juste faire une émission sur les grandes questions en Israël, c'est comment est arrivé le 7 octobre, il commence tout doucement à prendre des pincettes, à dire l'armée, elle commence à prendre la responsabilité de vouloir vérifier. Juste ça, je veux dire, on est loin d'être les meilleurs dans certains domaines si on n'a pas vu cette chose-là venir avec laquelle nos ennemis se sont préparés depuis 20 ans, quoi, sous notre nez. Mais à côté de ça, il y a tellement de belles choses, il y a tellement aller chez les Bédouins et voir comment, justement, les communautés juives et bédouines qui sont musulmans vivent ensemble, aller chez les Druzes dans le nord du pays et voir comment cette communauté non-juive est épaule contre épaule avec notre armée et que leurs enfants sont les meilleurs soldats d'Israël alors qu'ils sont même pas juifs aussi. Il y a tellement de facettes dans la société israélienne qu'on peut montrer à nos touristes, et ça c'est qu'avec l'expérience que le guide le comprend, que sur un voyage d'une semaine, les gens reviennent, disent: David, on a été dans pas mal d'endroits dans le monde, c'est quand même le voyage le plus riche, c'est le voyage le plus intéressant qu'on a fait, puisque on a vu vraiment que sur cette terre promise peuvent vivre toutes les religions et toutes sortes de personnes différentes. Ouais, aller aussi à Tel Aviv, se balader un peu là-bas avec les bobos, écouter que il dit exactement l'inverse de ce qu'on a entendu la veille dans un magasin avec un Israélien de Jérusalem qui pensait, par rapport à l'échiquier politique, ils sont plus à gauche là-bas à Tel Aviv, plus à droite à Jérusalem. C'est intéressant pour eux. Ça montre vraiment que la société est
diversifiée. Voilà, absolument. Et il y a une méconnaissance, et Israël souffre de préjugés dans le monde, partout, il y a une méconnaissance, et donc vous avez un rôle pédagogique, vous les guides en Israël. Alors on va revenir sur cette société israélienne aujourd'hui, puisque on s'intéresse à elle et à son actualité. Alors on est tous en attente de la réaction. Si on parle un peu politique, on est tous en attente de la réaction et de la réponse, surtout des terroristes du Hamas pour cette proposition, la dernière chance. Est-ce que la société israélienne reste divisée malgré tout face à ce drame que nous vivons, que vous vivez depuis près de 7 mois? Est-ce que les divisions politiques en Israël restent vraiment fortes, ou alors est-ce qu'à l'inverse vous sentez toujours cette grande fraternité et solidarité que la société israélienne a montré à partir du 8 octobre, dès le 7 même?
Il y a plusieurs choses. Déjà, quand vous dites la dernière chance, c'était pour qui la dernière chance?
La dernière proposition. Dans mon esprit.
Je pense, avant qu'on rentre à Rafia, regardez, ça fait 6 mois que le peuple, il est vraiment uni. Oui. Ça fait 6 mois que n'importe quelle personne que tu rencontres dans la rue a ou sa fille ou son fils ou son cousin ou son père. Oui. Il y a eu des histoires où il y a des gens de 60 ans, ils ont fait presque 200 jours c'est-à-dire jusqu'à, ils ont été libérés il y a une semaine. De l'armée, quoi. Il était un monsieur qui travaillait dans Hevra Kadisha, un rabbin de, je crois, Bnei Brak. Pendant 6 mois, ce qu'il a fait, c'est analyser les corps, les choses, dans le drame, dans les gens qui tombent à Gaza, dans nos enfants qui sont tombés. Il a fait 200 jours. Donc, une personne qui revient comme ça, même dans un quartier ultra religieux, et qui dit, je sais pas s'il le dit, mais tout le monde le sait, on peut que lui tirer notre chapeau quand, normalement, à 60 ans, on est déjà plus réserviste, même si on sait faire ça. C'est des gens qui, à côté de ça, il y a des gens qui vont tous les jours dans les hôpitaux pour faire sourire, d'autres qui font dans les écoles, des personnes qui ont perdu leurs enfants et qui commencent déjà, même s'il avait 18 ans, 19 ans, aller à l'école chez les lycéens et sensibiliser et raconter pour la mémoire de son fils qu'il était quelle belle personne, et pas qu'ils sont fiers qu'il soit tombé, mais en tout cas qu'ils le prennent comme quelque chose qui a un mérite aussi, c'est-à-dire qu'ils ont donné pour Israël ce qu'ils avaient de meilleur, leur enfant. Donc tout ça, c'est sur le terrain la société qui fait des très belles choses, et à côté de ça, la presse, je pense, qui, c'est triste à dire, on est à la radio, mais qui pourrit un peu tous les jours à essayer de refaire des divisions, tous les jours à dire c'est de sa faute à lui, c'est Netanyahou, c'est machin, et ça, on s'en sortira jamais, parce qu'en vérité, la division, elle est... on peut pas rattraper en 6 mois de guerre ce qui a été fait en 75 ans en Israël, c'est-à-dire cette gauche et droite qui est tellement divisée, alors qu'ils ont la même chose. Le 7 octobre, ils n'ont pas fait la différence quand ils sont rentrés à Nova au concert, de dire qui tu es et qu'est-ce que tu votes. Donc il faudra que ça évolue. Au sein de la société, ça a déjà évolué. On a eu des expériences et des élans de solidarité que j'avais jamais vue en Israël. Et ça, je rentre dans la 30e année que j'habite ici, avec des gens, avec des choses, avec des messages, des gens qui étaient d'extrême gauche et qui parlaient tellement avec leur cœur comme quelqu'un de droite ou d'extrême droite qui aurait parlé ici. On était tous au même point parce qu'on était tous après ce choc. Maintenant, il faut aller sur cette vague-là de ce qui nous unit. Et voilà, des gens qui parlent maintenant de une gauche qui essaie en Israël de pousser maintenant vers des élections quand on est en guerre, quand nos enfants sont dans Gaza, quand dans le nord ça tient sur un fil de rentrer avec Hezbollah. Quand il y a 2 semaines et demie, un samedi soir, on a eu un miracle que les gens le réalisent en Israël. Je ne sais pas jusqu'à combien vous en France vous le réalisez, mais d'avoir eu plus de 300 missiles qui ont été lancés depuis l'Iran, qui rêve de détruire Israël, et que on nous a dit après une semaine que chaque missile qui serait tombé, elle aurait pu dévaster un quartier avec une dizaine de bâtiments, et qu'on sait qu'il n'y a rien eu, vous le savez, à part une petite fille qui a été blessée oui. dans la communauté bédouine. Si ça, c'est pas du miracle, Léa, si ça, la population, elle le comprend pas, elle le comprend, mais il y a toujours ceux qui sont à la tête, qui doivent prendre aujourd'hui des décisions difficiles, on est en guerre, et quoi qu'ils fassent, c'est jamais bien, quoi. Ils veulent parler avec le Hamas pour libérer des otages, ils en ont quand même libéré la moitié, je vous rappelle, faut savoir. Ils nous ont pris des otages, ils ont promis aux terroristes que chaque personne qui prendrait un otage israélien, juif, il aurait $10,000 et un appartement à Gaza. C'était leur obsession quand ils sont rentrés, on voit dans les vidéos, de prendre des gens vivants. Ils nous ont pris des bébés, ils nous ont pris cuir, plein de vin. Et on a réussi à libérer la moitié avec des choses. L'autre moitié, on n'a pas réussi. Et quoi qu'ils fassent, c'est jamais bien. C'est-à-dire, il y en a qui disent qu'il faut pas parler avec eux, tu vois. En gros, j'aimerais pas être à la place de ceux qui prennent les décisions. Mais une chose est sûre, c'est que la société, les gens, on s'est pris une grande claque, beaucoup de tristesse, beaucoup de stress, beaucoup de choses. Mais là, on est après ça, on est maintenant à vouloir savoir ce qu'il y a le mieux pour Israël. Mmh. Et de ce côté-là, tout le monde, il est uni, quoi. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il... Tout le monde nous dit qu'il reste 3 bataillons du Hamas à Rafiar, et que si Tsahal, qui sait faire le travail aujourd'hui et qui a appris et qui a du renseignement, elle sait le faire, on n'aurait plus de Hamas à nos frontières aujourd'hui. Il serait au Qatar, il serait en Turquie. Donc c'est sûr que la logique a dit qu'il ne faut pas écouter toute cette pression. Mais vous entendez la pression? Vous entendez qu'hier, votre ministre des Affaires étrangères était en Israël après un voyage au Liban et qu'il a mis une pression à Netanyahu et dire ne rentre surtout pas à Rafiar, c'est la chose la plus grave qu'Israël ait faite. Je sais pas c'est qui ce jeune homme de 30 ans là qui est là, mais il a la responsabilité de 9 millions de juifs qui habitent en Israël aujourd'hui. C'est-à-dire que dire de pas aller jusqu'au bout face à notre ennemi, ça serait comme ne pas aller au bout après le 11 septembre ou après tous les attentats que le monde a connus, quoi, dans cette même situation. Donc Israël a une grosse pression. Et de toute façon, vous l'avez aussi, vous aussi, la communauté juive en France.
Et justement, c'est aussi ce que je voulais.
Ce regain d'antisémitisme qui se cache derrière une haine d'Israël. Donc on est tous dans le même combat, on doit juste prendre les bonnes décisions. Et les bonnes décisions, on va vraiment espérer qu'Israël sache les prendre. Et ils essaient de nous faire miroiter, on va vous rendre une 30aine d'otages si vous arrêtez. Je pense que même dans ça, nos sages ont toujours dit, quoi. C'est-à-dire que les otages, c'est la chose la plus importante, il faut les rendre, mais c'est pas toujours à n'importe quel prix. C'est-à-dire que là, ils nous demandent des histoires comme 1000 terroristes qui doivent sortir. C'est des gens qui... C'est vérifié qu'en Israël, chaque terroriste qu'on a laissé sortir, par exemple pour Gilad Shalit, qu'on voit des fois un petit peu se balader à telle une personne qui vit aujourd'hui en Maroc, qui a vécu l'enfer à Gaza, il dit, pour le libérer, tous les terroristes qui sont sortis ont repris le terroriste. Donc, Sinoir, le chef du 7 octobre, il était dans, vous imaginez, Léa, dans les plus de 1000 personnes qu'on a libérées pour lui. Donc, Israël doit apprendre de ça. On a des décisions difficiles à prendre. Mais on va souhaiter qu'on trouve la force de le faire.
En tout cas, vous nous donnez une image quand même plutôt positive de la société israélienne, une société qui reste unie, en tout cas dans la réalité sur le terrain, j'allais dire. Mettons à part les analyses journalistiques. Donc, sur le terrain, c'est ce que vous, observateur de la société, David, vous ressentez. Quelles sont, selon vous, les perspectives, en tout cas, de ce que vous pouvez ressentir à travers vos observations, quelles sont les perspectives pour l'avenir, mais on va dire à moyen terme, hein, à court moyen terme, quels sont les chemins qui peuvent que va pouvoir vivre, les différents chemins possibles, hein, que va pouvoir vivre Israël dans ce proche avenir.
à chaque minute, ça peut changer, Léa. C'est la force de... Il n'y a aucun peuple, je pense, dans le monde qui vit à l'heure actuelle des dilemmes sur son quotidien. Personne... Aujourd'hui, c'est la Colombie qui a dit qu'elle ne voulait plus aucune discussion avec Israël. À l'ONU, on parle de la reconnaissance d'un État pour les terroristes, pour leur donner un prix Nobel après le 7 octobre. Si ça avait lieu, ça peut changer les choses. Netanyahou, à chaque seconde, je pense, notre gouvernement réfléchit s'il rentre là-bas pour aller jusqu'au bout à Gaza. Le Hezbollah vérifie si au nord, ça vaut le coup de rentrer dans une guerre et que Beyrouth ressemble à Gaza, mais ils ont tellement la haine de nous qu'ils sont prêts peut-être à le faire. À chaque seconde, ça peut changer. À côté de ça, c'est l'histoire du peuple juif que tous les jours, tout peut changer aussi pour le bon. Aujourd'hui, on compte chaque jour la Sfirat HaOmer, vous savez, jusqu'à Shavuot, pour tous les jours s'élever vers un niveau avec des perspectives différentes, un monde meilleur pour le peuple juif, pour l'humanité. On a toujours été comme ça. Donc, le scénario, il peut être bon. Demain, il peut avoir un cessez-le-feu. Tsahal peut retrouver les otages et décider qu'elle s'en... C'est sûr que sans les otages, c'est pas logique. La société israélienne a une fracture, je pense, dans son cœur, de savoir que tant qu'on sait qu'il y a un otage à Gaza, c'est sûr que de gauche ou de droite, personne ne veut arrêter cette guerre. C'est juste une question de principe, de savoir que ça a été trop loin ce qu'ils nous ont fait, cette tristesse. Et donc, dans tous les cas, même si maintenant ils étaient intelligents, les mecs, ils rendraient les otages, ils ouvriraient une porte, ils diraient, ils leveraient les mains en l'air. C'est ce que le monde leur demande, une seule chose, rendez les otages. Jamais on nous a demandé de rendre le sang qui a coulé des 1200 innocents. Jamais on demande de tout le mal qu'ils ont fait. C'est un peu même trop facile pour eux. Mais après, les choses seront belles. Après, il y aura un cessez-le-feu. Voilà. Mais il peut y avoir un scénario. Mais la solution.
Oui, voilà, un beau scénario.
C'est que le peuple juif est fort, qu'on a vécu des choses beaucoup plus dures que ça, que ce soit il y a 80 ans avec la Shoah. On est dans une période où, à la fin du compte, on arrivera dans tous les cas à relever la tête, la guerre se finira, Israël reprendra. On l'a vu pour d'autres choses. Après le corona, un mois plus tard, le pays était rempli alors qu'il n'y avait pas eu pendant deux ans des pratiquement de gens qui ont pu rentrer en Israël. Donc, à la fin, on arrivera vers des beaux jours. La question, c'est combien de temps ça va prendre.
Pour nous allons.
Et juin, il y a des réservations, il y a des gens qui veulent venir, c'est au compte-gouttes, c'est tout doucement, c'est une famille, encore un autre couple et encore un autre groupe, une autre paroisse. Il y a des petites choses comme ça, tous les jours je réponds, tous les jours je propose ce qui est possible de faire, il y a des vols, il y a tout ce qu'il faut, il y a des hôtels qui attendent, il y a du tourisme aussi, on voit dans la vieille ville, des gens espagnols, anglophones, ce qu'on a dit, mais voilà. Donc,
c'est certainement lié aussi à la situation. Merci infiniment, David Mansour, guide touristique. Vous pouvez contacter à travers le site tioul-tov.org. Merci infiniment pour cette image d'Israël. Et on va se quitter, David, si vous le voulez bien, avec la chanson qui va représenter Israël à l'Eurovision samedi 11 mai. Hurricane.
Write out my symphony, play with me, look into my eyes and see. People walk away but never say goodbye. Someone stole the moon tonight, took my light. Everything is black and white. Who's the fool who told you boys don't cry? Hours and hours and powers. Life is no game but it's ours while time goes wild. Every day I'm losing my mind. Holding on in this mysterious ride. Dancing in the storm, I got nothing to hide. Take it out and leave the world behind. Baby, promise me you'll hold me again. I'm still this hurricane. Living in a fantasy, ecstasy. Everything is meant to be. We shall pass, but love will never die. Hours and hours and powers. Life is no game, but it's ours. Why? I'm
צריך מילים גדולות, רק תפילות, אפילו אם קשה לראות, תמיד אתה משאיר לי אור אחד קטן.
C'est uniquement sur Radio J.
Radio J.
Radio J.
Radio J.
Safaim Hazerem. L'homme est ma heret, les chumakom. Kvish ve hanof tachta, nifasa tsumvara. היופי החבוי בלא מושלם, אהבות מזדמנות, נדודים נצחיים. היי שלום, אם אפגוש בך עוד פעם בדרך הארוכה,
il est 17h.
Au 209e jour de guerre, une délégation du Hamas doit se rendre en Égypte pour avancer sur les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza. C'est ce qu'a annoncé le groupe terroriste dans un communiqué publié cet après-midi. Néanmoins, aucune date n'a été avancée pour ce déplacement. Ce matin, un haut responsable du bureau politique du Hamas affirmait qu'il allait rejeter la proposition d'accord du fait qu'elle n'inclurait pas la fin de la guerre et le retrait total de Tsahal de la bande de Gaza.